Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible.
Les tontons.
J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
Oh merde !
Les tontons.
La France est un des rares pays au monde à n'avoir jamais cédé à la tentation totalitaire.
Flingueur.
L'ironie du primate. Humour Louis-Philippard, le sarcasme prudhomesque. Mais vos opinions sur la musique moderne et sur l'art en général, je vous conseille de ne les utiliser qu'en suppositoire. Voilà, et encore pour enfants.
Oh, ça va atomiser. C'est l'émission des tontons flingueurs.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission des Tontons Flingueurs. Salut Marie.
Bonjour Gilles.
Bonjour Monsieur Gilles Marjan.
Bonjour à toutes et à tous.
Alors je vous explique un petit peu le côté quand même un petit peu exceptionnel. Pendant, braves gens, que vous vous remettez difficilement de vos fêtes, nous aussi, mais donc on veut plus faire l'émission le matin, c'est trop dur. Alors on l'enregistre le soir, on vient à n'importe quelle heure, des fois minuit, une heure, c'est le cas peut-être aujourd'hui, à vous de deviner. Et qu'est-ce qu'on fait? On enregistre des émissions d'avance. Comme ça, quand on est trop fatigué, et ou qu'on n'est pas là, ou qu'on est parti en voyage, n'est-ce pas Monsieur Marjoran? Qu'est-ce qu'on fait? On vous rediffuse cette petite émission. Ne nous téléphonez donc pas aujourd'hui au 05 65 49 29 94 parce qu'il n'y aura personne pour vous répondre, ce qui n'empêche aucunement que le sujet d'aujourd'hui va être, espérons-le, passionnant.
Mais vous pouvez envoyer des emails.
Ça, ouais, enfin les jetez pas trop fort quand même, hein. Vous pouvez les envoyer, nous on les rattrapera au vol. Par contre, il n'y a rien d'autre qui change, si simplement que dans ces émissions spéciales, puisque c'est son nom, on traite des sujets spéciaux, ce qui veut dire très clairement qu'on va y consacrer quasiment une heure, musique comprise, et puis qu'on va parler aujourd'hui d'un sujet qui nous est cher à toutes et à tous, mais surtout qui nous conditionne toutes et tous depuis pas mal de décennies, à savoir la publicité ou la communication, peu importe le nom que l'on veut donner à l'outil. Voilà. Alors Marie qui dit attention, je crois quand même que nous sommes obligés de faire un petit... Une petite mise en garde pour les gens qui nous écoutent, parce que, évidemment, toi, pas encore, mais ça va pas tarder. La célébrité, bientôt, Marie, tu ne pourras plus sortir dans Saint-Afrique sans qu'on dise « Ah, mais c'est elle la cousine des tontons, c'est elle !» Mais pour l'instant, c'est pas encore tout à fait le cas. Il y a des gens qui nous connaissent et qui savent très bien que... nous faisons ce métier, nous sommes proches peut-être, ou nous faisons ce métier de la communication. Donc il est bien clair, il est bien très important pour moi en début d'émission de préciser que cette émission a été faite avec un maximum d'objectivité et qu'on va essayer d'aborder tous les aspects de la com, pas forcément d'une façon positive sous prétexte qu'on travaille dans un milieu proche, mais on va essayer de le faire d'une façon objective pour côté consommateur, côté auditeur, c'est-à-dire grosso modo comment vous subissez la communication, ses aspects négatifs.
Ouais, parce que ça nous pourrit un petit peu la vie aussi.
Ça nous pourrit pas mal la vie, ses aspects négatifs, ses aspects positifs, parce qu'il y en a quelques-uns heureusement. Voilà, simplement je tenais à faire ce petit message.
Alors consommation pas, ou publicité, attention, c'est là justement.
Alors, c'est
où
quoi
il ne faut pas...
C'est quoi la différence entre la pub et la com, Marie?
Alors, cette émission va plutôt parler de publicité, normalement.
Ah
est-ce
bon
qu'on est d'accord ou pas?
Non, pas du tout.
Pas
non.
Du tout, formidable. Bah, écoutez, bonsoir messieurs, donc. Je reviendrai pour la prochaine.
Toi, tu vas parler de l'histoire de la pub dans quelques instants.
C'est ça, mais c'est...
Alors, si tu veux, je vais t'aider. Il y a une différence, on va la préciser tout de suite aux auditeurs, entre pub et communication. Elle est énorme. La pub, c'est une forme de communication. Hein, c'est pas la communication. C'est une forme de communication dont le but est de fixer l'attention d'une cible visée, qu'on appelle des consommateurs, des utilisateurs, des usagers, des électeurs, comme vous voulez, hein, pour l'inciter à adopter un comportement souhaité. Ça, c'est la pub. Et je répète, c'est un des aspects de la communication. Alors, effectivement, on va commencer dans un premier temps par s'intéresser à la publicité dans l'histoire. Ça commence quand? Où est-ce qu'on trouve les sources, Marie?
Alors, voilà, la publicité dans l'histoire, pour revenir sur ce que tu disais avec la définition de la publicité, c'est intéressant déjà de commencer par là, puisque en fait, ça vient tout simplement du mot public, hein.
Public, ah ouais.
Oui. Et en 1689, le mot publicité a été inventé, ou plutôt en 94, enfin peu importe, et c'est le fait de porter à la connaissance du public. Ce n'est qu'en 1829 que ça se transforme, donc porter à la connaissance du public, voilà.
En 1829, tu dis.
En 1829, par contre, ça se transforme en, dixit le petit Robert, le fait d'exercer une action sur le public à des fins commerciales. C'est là où ça change, on change tout déjà. Ou le fait de faire connaître un produit, un type de produit, et d'inciter à en acquérir. Bien.
D'accord.
Pour mettre un peu les points sur les i. Pourquoi? Parce que l'histoire... Alors, sous cette forme-là, en fait, ça remonte à très très longtemps, puisque déjà 1000 avant Jésus-Christ, on a une affiche qui a été découverte à Thèbes, qui vante, donc c'est reproduite à plusieurs exemplaires, qui offre une pièce d'or à qui capturerait un esclave en fuite. Alors ça, c'est le premier.
Ah, mais ça, c'est le wanted, ça, c'est le wanted, comme on trouve
c'est
dans
le wanted, western. Ouais. 1000 avant Jésus-Christ. Alors après, au Moyen-Âge, on a eu les crieurs publics. Qui ont répandu la parole royale et la parole des commerçants aussi.
L'ancêtre de la radio, en quelque sorte.
L'ancêtre de la radio, avec leur petit tambour.
En parlant d'ancêtre, excuse-moi de t'interrompre, on n'a pas précisé que exceptionnellement, Gilles était derrière la vitrine. Donc si vous avez une voix qui vous paraît un petit peu différente de d'habitude, c'est parce qu'il est, comme dirait Cabrel, l'homme derrière la vitre de verre. Et ce soir, il nous fait la tech. Enfin, pour toutes ces émissions spéciales, d'ailleurs, il nous fait la tech. Voilà, journaliste et technicien.
La technique, hein, pour les gens, voilà, la tech. Non, vous savez, monsieur, voilà.
Vas-y, continue. Excuse-moi.
Donc, après les crieurs, on a surtout eu un grand tournant, c'est au 15e siècle, l'invention de l'imprimerie. Et alors là, fabuleux, on va pouvoir commencer à inonder le public avec l'apparition déjà du fameux flyer.
À quelle époque tu dis ça ?
Le 15e siècle.
Le 15e ?
Mais oui, on avait des.
Ouais, mais alors l'affiche Wanted pour rechercher l'esclave, là, c'était un papyrus gravé, c'était quoi ?
Écoute,
T'as pas de détails là-dessus.
Écoute, j'ai pas de détails. Je sais que c'est une affiche qui avait été produite à plusieurs exemplaires.
Oui, mais ça
probablement
pouvait être une peau de bête. De tanner avec.
Oui, un papier. Enfin, oui, c'était peut-être
voilà,
pas.
Voilà, puisque l'imprimerie n'existait pas.
Oui, Gutenberg n'avait pas été inventé.
Ah,
maintenant, écoute, là, je manque de références, effectivement, sur la façon.
Gutenberg n'avait pas été inventé. Celle-là, elle pourrait passer au bêtisier de l'année prochaine.
On la garde.
Voilà, ses parents n'avaient pas fait du Gutenberg encore.
Et chers auditeurs, d'ailleurs, je suis pas très forte d'habitude et je vous permets de. Je vous demande de m'excuser, parce que comme vous pouvez l'entendre à ma voix. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. J'ai certains miasmes qui tentent de m'attaquer en ce moment.
Les cordes vocales.
Voilà, et qui limite aussi son pauvre petit cerveau.
Te laisse pas atteindre en chaîne.
Alors, pour conclure, on a l'imprimerie, alors bien sûr, avec les affiches, et ensuite, on va dire que ça va très vite, il y a quand même quelques petites marques, puisque c'est la Révolution française qui invente le marketing politique.
On va y revenir, je prendrai le relais sur le marketing après, ouais.
Et ensuite, on va dire qu'à partir de 1870, c'est la guerre, là, on entre vraiment, il y a la besoin de faire de la relance et de la production, donc là, il y a plein d'affiches partout. Voilà, mais en fait, il n'y a pas grand changement. Ça se fait depuis toujours et c'est juste les médias qui ont transformé l'outil. Quoi. Voilà.
On appelait ça de la réclame,
Voilà, c'était la réclame dans le sens publicité, mais comme on l'a fait encore un petit peu à la campagne, on abordera tout à l'heure, plus tard dans l'émission, évidemment, la différence entre la communication en ville ou la pub en ville et puis la manière dont c'est fait en milieu rural. Il y a encore quand même pas mal de différences. Mais il y a un des trucs fondamentaux qui a changé la vie de la pub, c'est le marketing, le sacro-saint marketing. Alors tout le monde mélange un petit peu, on comprend bien que c'est difficile de faire la différence entre marketing, publicité et communication, parce qu'en réalité tout marche un petit peu ensemble. Et c'est un petit peu d'ailleurs le but, c'est que chacun sache exactement à quel niveau la com cherche à les atteindre. Alors le marketing, c'est une démarche qu'on va qualifier assez simple, hein, c'est une attitude de recherche, d'analyse et d'écoute du marché et de son environnement pour mieux s'y adapter. Donc effectivement, comme tu disais Marie, les commerçants, je dirais même, il n'y a pas que les commerçants, une association pour mieux faire connaître son activité, n'importe qui, à un moment, va se dire à qui on s'adresse, à qui on propose notre activité, et forcément, s'il commence à analyser la personne consommatrice, entre guillemets, de l'activité, il va après essayer de trouver un certain nombre de méthodes pour toucher à coup sûr ce que l'on appelle en termes publicitaires cette cible. Jusque-là, rien de très grave. Alors ce marketing, en réalité, c'est pareil, on pense que c'est quelque chose de très récent. Moi-même, en faisant des recherches, j'étais très surpris parce que je pensais que c'était beaucoup plus jeune que ça. En réalité, c'est né en réaction à la pensée économique du 19e siècle. C'est-à-dire que les types, ils avaient des problèmes énormes provoqués par la rapide croissance de l'économie et ils étaient incapables de résoudre ce problème-là. Alors il y a eu des premières notions de marketing au 17e, au 18e en France et au Royaume-Uni. Après, on va dire quand même que l'histoire du marketing, à partir du moment où ça s'est mélangé un petit peu avec le management d'entreprise, c'est une discipline assez récente quand même, hein, assez proche du 20e siècle. Alors la crise de 29, tu le soulevais, a évidemment joué un rôle très très important dans cette période parce qu'il y a eu une intensification de la concurrence très importante en 1929. Alors, le marketing, il n'est pas arrivé comme ça. Il y avait un environnement, il y avait des besoins pour justifier cette émergence, pour justifier que ça passe. Alors on peut dire que les mecs cherchaient à améliorer la circulation de l'information, c'est ce que tu définissais, général et commercial. Les premières études de marché, 1910, d'une façon très surprenante, pour s'informer sur les opportunités. Il y avait l'objectif de professionnaliser la publicité. Et là, on commence à mesurer la différence. Le marketing était un objectif de professionnaliser la publicité, qui était une approche commerciale traditionnelle qu'il fallait faire évoluer. Et puis, cette espèce, alors là, c'est peut-être un petit peu de la masturbation intellectuelle, le besoin d'une approche scientifique au sein des entreprises pour améliorer les ratios sur les prises de décision.
Faire croire que ce métier est un vrai métier, en fait. Alors que c'était ça où travailler. Comme je disais, quand on me demande pourquoi j'ai choisi ce métier. Quoi.
C'est un métier de glandeur, donc.
Non, mais c'était ça où travailler. Il y a une...
C'est joli.
Voilà. Ils sont mignons.
Alors, en 1900, on va très vite sur l'histoire. En 1937, les Américains créent l'association du marketing américain. C'est quand même un point fondamental, 1937, avant la guerre. Et puis, après, le concept de marketing a évolué assez vite avec l'idée de placer le consommateur au centre des affaires. En 1960, le marketing est devenu une discipline de management, c'est-à-dire qu'on utilisait ces outils pour diriger un petit peu les gens. Et on a une évolution assez importante qui est arrivée dans les années 60 qui s'appelle le marketing mix. Et ça, c'est un concept assez facile à comprendre. Dans le cadre d'une entreprise ou d'une marque, il y a un ensemble de décisions qui sont prises qui sont cohérentes ou pas. On appelle ça la règle des 4 P. C'est le produit, le prix, la politique de distribution et la politique de communication. Et c'était le mélange, le mix de ces quatre paramètres qu'on commençait, on va dire, à rendre la publicité efficace. C'est ce qu'on appelait le mix marketing. Ça date des années 60. Alors, pour le grand public, il y a des gens qui...
Je ne suis pas d'accord avec cette approche du tout.
On va avoir l'occasion ils ont oublié le prout dans le...
La règle des 4 P, on aura l'occasion d'y revenir, Marie, évidemment, dans le débat, dans quelques minutes. Pour terminer donc sur la partie, je tiens quand même à préciser, évidemment, que le grand public, lui, a été informé très tard de cette notion de marketing. Le grand public, il a mélangé, chers auditrices et auditeurs, je suis sûr que c'est encore le cas aujourd'hui, beaucoup de gens confondent et disent « Ah, c'est de la pub !» Non, le marketing, c'est quelque chose qui a énormément changé les habitudes, et on va voir lesquelles, évidemment. Et il y a un type qui a dénoncé ça très bien. Je vous renvoie vers un auteur extrêmement intéressant qui s'appelle Vance Packard, un auteur qui est mort en 1996. C'était un économiste, donc il savait de quoi il parlait, un sociologue et un écrivain américain. Lui, il a étudié le système de consommation avec ses excès dès le départ, les effets de la pub sur la population et les procédés psychologiques des publicitaires. Il a poussé très loin avec un bouquin que j'ai lu qui s'appelle « La persuasion clandestine », qui est une bible pour les gens de ce métier, qui a été écrit en 1957 et qui expliquait les types de recherches scientifiques qui étaient faites dans les labos aux États-Unis.
Sur le temps de cerveau disponible.
Sur le temps de cerveau disponible. C'est-à-dire que cette fameuse phrase de Coca-Cola, elle a été étudiée à cette époque-là. Et Vance Packard a fait un bouquin fabuleux là-dessus. Il faut quand même savoir que ce type a passé son temps à dénoncer les excès de la société de consommation. Il a publié un autre ouvrage sur la surveillance et le fichage de la population par la police, mais surtout par les entreprises. Et il comparait donc à l'époque l'Amérique des années 60 aux œuvres d'anticipation d'Orwell et d'Huxley, 1984, et Le Meilleur des Mondes. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement important pour la pensée opposée justement à cette manipulation.
Aujourd'hui un peu en retard, mais 2011, 1984, c'est quand même très 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 proche.
On est de plus en plus près.
On est dedans depuis un moment.
On a vu l'histoire, on a vu le marketing des années 60 qui a révolutionné les choses. Aujourd'hui, le marketing, Marie, c'est quoi dans la construction d'un projet, à quoi ça sert? Est-ce que tu as une idée? Là, on parle maintenant, on oublie nos petites notes et on se fait un petit débat. On a un petit débat d'une dizaine de minutes sur le sujet, c'est quoi?
Alors, le marketing, normalement, comme tu le disais tout à l'heure, c'est professionnaliser le passer de la réclame à la pub, c'est-à-dire de « je vends, oh qu'il est beau mon yaourt, mangez-en » à « je vais savoir ». Alors, il y a des choses en amont, c'est l'étude du produit, bien sûr. C'est pas forcément du marketing, ça doit porter des termes encore un peu plus compliqués que celui-ci. Et ensuite, comme tu le disais, cibler à qui on va s'adresser, quelle va être ma population à laquelle je vais fourguer mon yaourt.
Voilà. Alors ce mot cibler, il est horrible. Est-ce que dès le départ, on n'a pas... on cible. Mais est-ce que c'est pas quelque chose de naturel? Est-ce que de tous les temps, un vendeur ne s'est pas demandé à qui il allait vendre son produit? Aujourd'hui, les termes qui sont dessus, ça fait peur, quoi. Je cible.
Ah ben, les termes de publicité sont très agressifs, c'est ce qui... Et alors, si c'est possible, s'ils sont anglais, ils se vendent beaucoup mieux. C'est extrêmement drôle, il y avait le sketch des Inconnus à l'époque. Moi, ça m'arrive encore, quelquefois j'ai des briefs, parce qu'on a des briefs quand on travaille dans la publicité. Et je comprends pas, il y a des mots que je comprends pas, et j'avais, avec un copain, on avait dit qu'on allait inventer des mots. Ça peut marcher, on invente des mots, et on l'a fait dans des réunions avec des pubards, et les gars, ils n'osent pas te demander
ce que
ça
veut
dire. Tu leur dis, oui, on va faire l'override sur le, l'override sur le débrief pour faire un reshoot après, mais personne ne va te demander, parce que, donc ça, tu augmentes tes factures avec ça.
Alors, moi, il y a un truc...
Excuse-moi, j'ai complètement dévié du sujet.
J'ai bien compris, c'est la raison pour laquelle on va y revenir tout de suite, d'ailleurs. le marketing, moi, ce mot, bon, d'abord, j'exècre ce mot, mais il n'y a pas le choix, c'est celui qui est utilisé. Je l'exècre parce qu'il induit une notion purement analytique, purement théorique d'une donnée.
Moi, je voudrais ramener... C'est froid et cynique.
C'est froid, c'est cynique. J'aimerais ramener quand même, maintenant, pour qu'on comprenne bien que tout ça, ça reste très mesuré. Le marketing, il commence où ? N'importe lequel d'entre nous a un projet. Il va réfléchir son projet pendant 6 mois. Conception d'entreprise, lancement d'association, engagement politique, n'importe lequel. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va premièrement se demander, à moins de se prendre pour un gourou et d'être un grave fêlé, si le message qu'il distille est utile aux autres. Ça, c'est le premier aspect, normalement, quand on est logiquement constitué. Dans un deuxième temps, il va se demander s'il y a des gens qui ont besoin de ce qu'il propose. Ça demande déjà un niveau de réflexion et avec certains outils extrêmement compliqués.
Une petite étude de marché.
Et dans un troisième temps, il va se demander s'il a une chance et ce qu'il faudra mettre en œuvre pour toucher les gens qu'il vise. Bon. Ça n'a rien de sale. Le marketing, c'est sale parce que ça théorise ça. Ça en fait une science mécanique et absolue. Et il est évident que, heureusement, il y a toujours au milieu de ça un critère humain qui ne pourra jamais être amené à quelque chose de théorique et d'absolu. Les gens du marketing, eux, détournent quelque chose de totalement naturel qu'on appelle une étude de marché pour l'avoir transformé en quelque chose d'extrêmement théorique qui doit marcher à tous les coups. Ça n'est pas vrai.
Non, mais ça marche pas surtout.
Le marketing, ça marche, c'est une histoire d'échelle. C'est-à-dire que la notion de marketing, c'est à l'échelle. Vous vivez dans une région qui s'appelle l'Aveyron. À l'échelle du Sud-Aveyron, le type qui lance une entreprise en Sud-Aveyron, le marketing, il s'en fout pas. Il en a besoin de Millau jusqu'à Albi. Ben,
il a intérêt. On voit les commerçants qui ouvrent des boutiques et qui ferment au bout d'un moment parce qu'il n'y a pas
parce qu'ils n'ont pas étudié.
Il n'y a pas la clientèle. Ah oui, ils n'ont pas étudié. Oui. Et on le voit tous les jours.
Ben, ça n'arrête pas.
Attendez, et puis même en étudiant, quelquefois, on n'est pas à l'abri d'avoir des on ne sait pas pourquoi ça ne va pas marcher. Alors il faut bien sûr bien regarder son truc avant.
Donc après, alors moi, excuse-moi Marie, je vais te relaisser la main tout de suite. Il y a quelque chose d'important, c'est que on vient de comprendre donc que c'était présent dans la construction de n'importe quel projet personnel, d'étudier un peu ce qu'on envoyait, on va dire. Et puis après, il en découle des stratégies. Et c'est seulement au stade de la stratégie qu'intervient la publicité. Donc on comprend bien, dans un premier temps, il y a un besoin de communiquer. Dans un deuxième temps, il y a une analyse, c'est le marketing. Et dans un troisième temps, il y a un outil au service de l'analyse, c'est la publicité. J'espère que là, on est clair pour bien dissocier les trois étapes. Marie, toi, tu es créatrice, on va simplifier l'histoire, tu es créatrice ou directrice de création, tu as travaillé comme directrice de création dans plusieurs agences. Comment ça se passe aujourd'hui en bout de chaîne? C'est-à-dire, on a bien compris, la pub, c'est l'outil. Pour les gens qui utilisent l'outil au service de projet, comment ça se passe dans une grande agence de pub aujourd'hui en France?
Alors, ça, je vais vous l'expliquer. Je veux juste revenir sur la notion de marketing parce qu'on ne l'a pas évoqué. Le marketing poussé à l'extrême, c'est bien sûr ce que tu disais tout à l'heure, là où c'est entre guillemets sale. C'est-à-dire que je vais fabriquer un yaourt parce que je sais que le goût de ce yaourt, j'aurais étudié ma cible et que, voilà, ma cible est prête pour avoir un yaourt à la menthe qui a la couleur, qui est vert à petits pois et qui machin.
Donc, et qui fait baisser le cholestérol en plus.
En plus, voilà.
Donc, c'est l'analyse même sur le produit lui-même, alors qu'on n'a pas cette... à peu près, peu importe qu'il soit bon ou pas, normalement, le bon marketing, est-ce que le produit est bon? Ça devrait être la question numéro un dont tout le monde se fout, puisqu'il faut surtout vendre plus.
Alors tout le monde, attention, tout le monde en ville, on verra tout à l'heure les différences de réalité aussi de la communication, en termes, le rapport avec la sociologie ou les endroits, parce que c'est très différent, on ne travaille pas à la campagne comme on travaille à Paris.
Alors tout à fait, oui,
c'est
bien
fondamental.
Sûr. Sur les grosses marques.
Alors, une agence de pub, comment ça marche, Marie?
Alors, comment ça marche, Marie, une agence de pub? Alors, une agence de publicité, eh bien, c'est très simple. Il y a, vous avez trois morceaux dans une agence de publicité. D'un côté, les financiers. De l'autre côté, au centre, les commerciaux. Et sur le dernière petite rangée à droite, les créatifs. Donc, vous avez, ça porte bien son nom. Donc, les financiers qui vont avoir les finances, faire s'occuper de tout ce qui est les sous, les procès, les choses de loi, etc. Les commerciaux qui, eux, sont censés récolter les données du marketing, on va dire, les traduire et se dire tiens, comment on va dire, j'ai mon yaourt gourmand à pois rouges, comment, à qui je vais le vendre
Oui, récupérer voilà. Les données du marketing, tu viens de dire, mais il y a un point que tu n'as pas abordé, tu as parlé de commerciaux, tu as parlé de financiers, tu n'as pas parlé de marketing. Le marketing, il est externalisé, c'est-à-dire que c'est les entreprises qui amènent, en grosso modo, leur réflexion sur ce qu'elles ont envie de faire, ou l'agence de pub, des fois, donne des idées également sur l'organisation du produit ou pas du tout.
Alors, effectivement, c'est très différent suivant les typologies. Dans les grosses marques, évidemment, c'est la marque qui va faire sa propre étude marketing. Quand on a L'Oréal qui est en face, t'imagines bien que le gars, ça fait déjà 5 ans qu'il sait qui va sortir tel type de crème.
Mais ton cours, elle sait qu'il faut acheter l'UMP.
Non, voilà. Mais ton cours, elle ne sait plus, elle ne sait pas grand-chose. Mais par contre, ses directeurs, effectivement,
et pas
du
que l'UMP, d'ailleurs.
Ça...
D'ailleurs.
Donc, c'est pour des grosses marques, c'est valable. Maintenant, évidemment, pour des petites marques qui n'ont pas de structure de marketing intégrée, l'agence de pub peut faire office, mais en général les commerciaux qui sont dedans ne sont pas mandatés, ne sont pas bons là-dedans.
Ah, ils sont pas bons, toi
non.
Tu dis cache les
ah,
choses.
Non, mais il y a plein de fois le marketing.
Il y a pas de compétences quoi.
Fait.
Peu de compétences.
Non, peu de compétences. On passe directement du. Il y a pas de justement d'études marketing ou pas bien faites en tout cas.
Et là c'est pourri, on envoie le mec au casse-pipe quoi. Le type il arrive, il a un
non,
projet qui pense
être... Non, parce que qui va sauver l'ensemble du bateau, le radeau de la Méduse, c'est le créatif. Et c'est là où la publicité est un outil rigolo, parce que si le truc il est bon au départ, si tout est bon et t'as un bon créatif qui a une bonne idée derrière, c'est formidable, ça va cartonner. Maintenant, si c'est mauvais dès le départ, dégueu, mais qu'il y a éventuellement un bon créatif qui a une bonne idée, ça peut par un miracle, je dis bien par un miracle, hein, mais encore changer les choses. Et c'est la dimension qui n'est pas quantifiable de la publicité, où va y avoir une idée super et tout le monde va acheter ce produit. Alors, parce qu'il y a quelqu'un qui va t'avoir fait rire en te montrant une image qui va t'avoir plu. Ou... Voilà,
c'est très, très très bien montré dans le bouquin et dans le film de Beck BD, 99 francs de l'époque. Je ne sais pas si vous avez lu ou vu.
On a vu, bien sûr. Bien sûr,
mais bien sûr, c'est un classique, mais on voit justement que parfois des bouses, comme ils disent, les créateurs refusent. C'est le truc bateau, chiant et tout, va marcher à fond et va plaire à l'annonceur, au type qui paye pour ça. Et qu'à côté de ça, un truc vachement créatif, sympa, subtil et tout, va avoir de la peine à passer. Et parfois, il y a des petits miracles.
Ouais, bien
là
sûr,
au milieu.
Bien sûr. Alors là, on parle bien évidemment de, parce qu'il faut quand même ramener les choses dans leur contexte, de communication de masse, j'ai envie de dire, de pub de masse. Alors, la pub de masse, elle se différencie de la communication sur un point extrêmement important également, et ça va être facile ça aussi à exprimer, c'est que la publicité, vous remarquerez qui sont les annonceurs, hein, qui passent à la télé, qui passent à la radio, sont évidemment des grands comptes. Et la spécificité de ces grands comptes, c'est de travailler systématiquement, très souvent, sur la masse. C'est-à-dire qu'on vend un produit, l'objectif c'est d'en vendre le maximum pour gagner de l'argent. Moi, je pense au petit entrepreneur qui est en milieu rural. Lui, son problème, c'est pas du tout ça. Il n'aura jamais les moyens de passer sur TF1 et ça ne l'intéresse pas. Il n'a pas un marché, entre guillemets, potentiel à l'échelle France. Donc, aujourd'hui, lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut communiquer à l'échelle de son marché potentiel. Alors, vous allez me dire que c'est exactement la même chose à une autre échelle. Oui, mais ça induit d'autres comportements parce que forcément... La publicité, elle peut se permettre un peu de raconter n'importe quoi. Si l'utilisateur final se rend compte dans la pub de masse que le produit est merdique, le temps qu'il arrive à choper un service des consommateurs qui fasse son taf, qu'il arrive à choper un responsable dans la grande marque qui l'a entubé, on peut toujours s'accrocher. Alors qu'à la campagne, le type qui va avoir une communication déplorable ou qui vend un produit de merde, il se crame son marché en 3 ans. C'est-à-dire que quelqu'un qui ici, on va prendre l'exemple de l'Aveyron, bosse mal, fait mal son boulot, n'est pas convenable commercialement ou humainement, il se fait dézinguer 3 ans après, il est mort. Alors ça induit une question fondamentale, c'est que la communication, elle va travailler sur ce qu'on appelle des valeurs ajoutées, c'est-à-dire qu'elle va travailler, elle va essayer de mettre en avant des gens qui ont de réelles capacités, de réelles compétences, ou des très bons produits, ou des très bons services, parce que c'est pareil, hein, l'agence de pub, faut pas rêver, je sais de quoi je parle, l'agence de pub qui va s'amuser à faire la promotion d'un type qui vend de la merde, elle sera assimilée à l'image du type qui vend de la merde. Donc, l'ensemble de la chaîne de promotion est conditionné par le critère de qualité un minimum. Alors qu'à l'échelle de la pub de masse en ville, on s'en fout
oui,
complètement.
Parce que le gars,
ce sont deux choses fondamentalement différentes.
Il va déjà avoir vendu 500 000 pots de yaourt avant qu'il se passe quelque chose. Quoi. Donc,
voilà, c'est vrai, ça. Puis il n'y a pas de service consommateur. On ne trouvera jamais un type auprès de qui on peut se raccrocher pour gueuler. Fais-toi entuber, acheter un yaourt qui t'empoisonne. Accroche-toi pour te plaindre. Hein, je veux dire, Gilles, je le vois faire des petits sourires. Vous remarquerez que ça y est, il a trouvé le bouton. Ça fait 20 minutes qu'il cherche. Alors, on va lui laisser la parole un peu. Voilà, merci, monsieur. On va lui laisser la parole à monsieur Margeron parce que c'est un point qu'il a, dans le cadre de notre préparation, traité un petit peu plus, puis qu'il concerne directement. Alors, évidemment, les médias à qui on reproche de plus en plus d'être au service, dans une espèce d'amalgame au service de la pub ou de la communication, ce sont évidemment de gros vecteurs de communication, les médias. À commencer par la communication humaine, ce qu'on est en train de faire, et puis malheureusement, souvent un peu de communication un peu plus. Gilles, toi, prenons un exemple, on va pas parler de la radio tout de suite, on en parlera dans la deuxième partie de l'émission. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la pub média ? Le journal, la télévision, quel regard tu as là-dessus, toi ?
Le gros problème en 2012, c'est qu'un média qui ne fait pas de pub a énormément de peine à vivre. Il n'y a pas un journal papier, à part le Canard Enchaîné, qui vit uniquement de ses ventes et de ses abonnements, ce qui est un miracle, mais c'est vraiment l'exception. Sinon, tous les journaux papier, les médias audiovisuels et autres, vivent de la publicité et sont complètement accros à la pub, ne peuvent pas faire autrement, quoi. C'est malheureusement, sauf quelques médias alternatifs comme nos radios associatives.
Mais ça tourne à l'enfer. On a une page de pub, toutes les deux pages de contenu sur tous les journaux maintenant.
On voit bien les magazines sur papier glacé. En plus, c'est dégueulasse, ça pollue, etc.
Il faut que je vous cite quelque chose qui m'a profondément choqué à ce sujet. Là, je cite le Conseil général de l'Aveyron qui publie son magazine. Il a fait appel à des agences de publicité, une appel d'offres. Son magazine, il n'a pas payé les agences de publicité. C'est censé être un magazine, donc c'est gratuit. Tout est gratuit. Et parce que les pages de publicité sont censées, en fait, amortir le coût du journal. C'est à un tel point que donc il ne paye pas l'agence pour faire le boulot. C'est quand même exagéré.
Alors, on a ça, effectivement, Marie, c'est totalement choquant, mais est-ce que d'une manière générale, les médias ne sont pas devenus... Alors, évidemment, on peut toujours s'amuser sur le jeu des propriétaires à qui appartiennent les médias, ça fait suffisamment de temps et de fois qu'on en parle sur cette antenne. On sait très bien qu'il y a collusion et qu'il y a un problème, mais aujourd'hui, quand tu vois le Nouvel Observateur, pour ne citer que lui, qui va faire un dossier de 20 pages sur l'écologie, ouvert précédemment par une page de pub sur les 4x4, et ouvert en sortie par une page de pub sur les BMW, par exemple. On se dit jusqu'où on peut aller dans le foutage de gueule et dans le manque d'éthique. Parce qu'il y a un moment, on peut utiliser ce terme-là, même dans la communication. Quoi.
Tout à fait. Nous, ça nous choque, mais je pense que dans ce milieu-là, c'est devenu banal. Parce qu'on pense que les gens sont adultes et en ont rien à foutre. L'essentiel, c'est d'avoir du pognon pour pouvoir faire un bon journal. Et que c'est totalement paradoxal, effectivement, que pour nommer... Tu disais les gros propriétaires du genre Dassault, qui est propriétaire du Figaro, c'est la tarte à la crème. Comment un vendeur de Mirage ou un vendeur de canon peut accepter que dans son journal, on va critiquer le fait qu'il ne vende pas ses Rafales, par exemple, quoi. Ça va être très difficile d'être objectif et donc ça va être très difficile de faire vraiment du journalisme. Ceci dit, je pense notamment dans le microcosme parisien, c'est devenu une fatalité acceptée par tout le monde. De toute façon, il n'y a pas de médias sans pub, d'après eux, hein, à part quelques petites exceptions. Ça va avec. On accepte de faire de la pub pour des conneries. Certains journaux un peu d'éthique, du genre Libé ou le Nouvel Obs, qui vont refuser parfois certaines pubs parce que...
Ils vont jusque-là quand même.
Ça arrive. Ouais. Mais à l'heure actuelle où c'est très très difficile de survivre, faut en avoir les moyens, quoi. C'est toujours le paradoxe. Comment tu vis, comment tu peux arriver à faire bouillir la marmite sans te prostituer.
Sans te corrompre, c'est ça. La limite, elle est toujours là. Il y a une barrière éthique.
Il y a toujours un équilibre et qui parfois est très, très, très difficile à faire parce qu'il y a des salaires, il y a des gens qui vivent là derrière et tout.
Et demain, donc... un journal à 5 euros, je ne sais pas qui va l'acheter, quoi.
Mais puis il y a une question qui se pose quand même, c'est... Le problème n'est pas de critiquer, de savoir si c'est bien ou mauvais d'avoir des stratégies. Parce qu'il y a un moment où il faudra revenir à ce terme-là. D'ailleurs, on y reviendra en deuxième partie d'émission. La question ne se pose pas de savoir si c'est bon ou mauvais d'avoir une stratégie. La question, c'est de savoir si c'est... Quelle est cette stratégie ? Elle est dans un sens positif ou elle est dans un sens négatif ? Nos politiques ont des stratégies, nos communicants ont des stratégies. Monsieur, tout le monde, je suis sûr que même dans les gens qui nous écoutent, qu'ils aient des petites entreprises ou qu'ils soient salariés, quand ils doivent aller négocier leurs vacances ou quand ils doivent aller discuter avec le patron pour avoir les RTT, ils ont leurs stratégies. C'est dans notre fonctionnement humain d'avoir des stratégies. Elles ne sont pas toutes à
même
sens...
Même les bonobos ont une stratégie.
On est bien d'accord.
Non, mais je fais exprès.
On est d'accord.
Mais c'est ça. Voilà. On s'aperçoit que même chez les les grands singes, pas uniquement les bonobos, il y a une stratégie pour gagner le pouvoir et le conserver.
Et voilà, donc tout est dans notre fonctionnement tourné vers ça, et donc finalement, curieusement, alors que c'est le mot le plus merdique qui soit, le marketing n'est pas forcément la partie la plus sale du métier. La partie la plus sale, c'est peut-être quels outils et quels moyens on se donne pour arriver à nos objectifs.
Moi, ce qui me gêne le plus...
Voilà, on va avoir son avis quand même.
Mais hein. Oui. Ah. Ce qui me gêne le plus, c'est qu'on mette beaucoup d'argent pour vendre un produit qui est mauvais, par exemple, ou qui ne sert à rien.
Voilà.
Et qu'on va le vendre quand même. Je pense aux lessives, par exemple, qui sont extrêmement polluantes. Et pendant des années et des années, Coluche avait fait un sketch magnifique là-dessus, sur Homo qui lave plus blanc, etc., en faisant des nœuds et compagnie. Vous connaissez tous le sketch. Ça vient tout du même tonneau. Hein. Je connais des gens, des chimistes qui ont bossé sur les lessives. Il y a en fait trois ou deux gros fournisseurs, et dedans il y a exactement la même camelote, quoi.
Hein. Bien sûr.
Voilà, seulement il faut trouver des packaging, il faut trouver des slogans, il faut trouver des cibles, etc., pour arriver à vendre le maximum de barils.
Alors, avant de se retrouver, de se faire une petite pause musicale et de se retrouver après, non, c'est dans l'autre sens qu'il fallait que je dise ma phrase. Moi aussi, j'ai du mal avec la stratégie, avec la communication. Je voulais dire le contraire, c'est-à-dire qu'on va vous laisser avec une petite pause musicale et que nous allons nous retrouver tout de suite après avec cette émission spéciale. Je vous rappelle que vous êtes sur les Tontons Flingueurs, cette émission spéciale stratégie, communication, marketing, publicité, c'est quoi qui est bon, c'est quoi qui est pas bon. Ben, on essaye de disséquer un petit peu tout ça, sans prétention. On vous rappelle que c'est une émission enregistrée, ne nous appelez pas. On va s'écouter un petit morceau de musique et puis tout de suite après, on verra les outils au service des stratégies politiques,
voilà,
commerciales.
C'est la pire des stratégies, Gilles, que tu viens d'employer.
Qu'est-ce que j'ai fait?
On va s'écouter un petit morceau de musique, c'était évident, puisque une pause musicale en général, tu vois, à la radio, c'est...
Ouais.
Voilà.
Tu voulais faire quoi, là?
Non, c'est juste...
Attention, ils vont se battre, je pense.
Non,
ça va devenir
quoi,
intéressant.
Non. Elle est morte, la vache.
Juste, j'essayais de placer le fait que normalement, eh bien, c'est Gotenner qui prend la suite.
Ah.
Et Gotenner est un grand pubeux. Il a fait plein de slogans.
Je ne savais même pas,
Ah oui, c'est un homme de publicité. Marie, tu connais, puisqu'on a eu la même idée pour
choisir. Siro Pam Pam, Glou Glou, Miam Miam. Voilà, quelqu'un qui arrive à vendre ça, et tout le monde s'en souvient.
Énorme,
moi, je trouve
ça fort. Et il a fait plein de musique et de slogans dans le genre. Et ça s'appelle Les Nazes.
Bon, on est parti.
Jamais à plus de 10 passants le moindre répit. Où que t'ailles, il est là, c'est à croire qu'il te suit.
Un as.
Un gros nas qui s'accroche, un qui fait bien ventouse, qui pèse dans les sacoches, qui chie dans la galtouse.
The nas.
C'est dans le kit de bras, c'est comme ça c'est écrit. Y'a toujours un gros nas pour te pourrir la vie. Les nas, quelle bouse, ça met le blues. Les nas, y'a gros nas, gros blues. Les nas, quelle bouse, ça met le blues. Les nas, y'a gros, gros nas. Gros blues. Un drôle de pharmacien. Sans chercher le gros blaire, il s'en vient toujours un.
Le blaire.
Des pôles à l'équateur, y'en a pas que chez nous. Doit s'y mettre à plusieurs, le lourd dingue est partout.
Le chieur.
Partout y'a une enclume comme mec qui a strimballé. Un loctu qui t'enfume, une daubasse boivrée. Les nas, quelle bouse, ça met le blues. Les nas, y'a gros nas, gros blues. Les nas, quelle bouse, ça met le blues. Les nas, y'a gros, gros nas. Très, très gros blues. Le faiseur d'avalanche, le gars qui sent le gasoil. La tâche, la buse, la tanche.
Y'a du nas de tout poil.
Y'a du nas, y'a du nas.
Y'a du nas de tout poil.
Y'a pléthore de nas brocs, des bœufs, des manches de pelle. On a du jas en stock, de la pioche, de la brêle. Tu cherches un imbécile, tu t'enquières d'un couillon. C'est pas bien difficile, provoque une réunion. Les nas, qu'elles poussent, ça met le blues. Les nas, il y a gros nas, gros blues.
Les nas,
qu'elles poussent, ça met le blues. Les nas, il y a gros nas, gros blues. Ça met le blues, les nas et à gros gros nas. Gros gros. Gros gros. Gros 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 blues.
Gottener sur Radio Saint-Afrique avec les tontons flingueurs.
Merci Gilles pour le retour. Effectivement, vous nous téléphonez pas, on est dans une émission qui a été enregistrée il y a quelques jours, on en fera plein comme ça, quand on a la patate, et ben on passe au studio, on vous fait des petites spéciales qui nous demandent un petit peu de prépa, mais c'est toujours tout en toute modestie, on parle de sujets comme ça qui conditionnent nos vies, qui ont pas mal d'impact sur nos décisions. Et aujourd'hui,
en plus, c'est leur business, quoi, il faut
alors,
dire.
Notre business, effectivement. Alors Marie, ben, on va resituer comme ça, on pousse l'honnêteté jusqu'au bout pour dire qu'on c'est très difficile, d'ailleurs on en parlait dans le couloir à l'instant, de discuter de ça pour nous qui sommes du métier, parce qu'évidemment, bon, on n'est pas venu là par hasard, on est deux personnes habitant en Aveyron qui travaillons curieusement toutes les deux dans des métiers proches de la communication, et moi je dis bien de la communication, et il y a des choses qui nous horrifient dans ce métier, parce que comme dans tous les métiers, ils peuvent être pratiqués d'une façon...
Oui, mais vous n'avez pas envie de vous tirer une balle dans le pied non plus.
On ne va pas se tirer une balle dans le pied, mais on essaiera d'être le plus objectif possible et de dire ce qui nous paraît sale ou convenable dans ce métier, voilà. Pour peu que ce soit défendable.
Et voilà. Je voudrais juste dire que la publicité, c'est pas sale, parce que Gilles, avant que la musique passe, tu l'as dit, c'est que le produit est-il bon ou pas.
La seule question qui se pose, c'est est-ce que ce qui est vendu tient la route ou pas. C'est la seule question importante.
Et la publicité est absolument nécessaire.
On en parlera après dans la partie radio.
Notamment pour faire connaître un nouveau produit. Il est certain qu'à l'heure actuelle, quelqu'un qui sort un produit génial sur le marché, s'il ne fait pas de pub, ça passe à la poubelle. Quoi. Il se fait piquer l'idée, il ne vendra pas, etc. Moi, ce qui me gêne énormément, c'est des trucs qui n'ont rien à voir. Je suis complètement choqué, par exemple, que des boîtes comme Areva fassent de la pub à la télévision.
Eh ben oui.
Ça, c'est quelque chose qui m'horripile complètement.
C'est ce qu'on appelle des coms de crise. C'est-à-dire que là, on sait, le consommateur sait que le produit n'est pas bon. Et donc, il faut le faire accepter.
Pas forcément, c'est vraiment de la manipulation de cerveau.
Ah oui, complet,
parce que, complet. Justement, il y a des antinucléaires. Donc, il va falloir essayer de retourner l'opinion et avec des petites images pour les gamins, machin.
Alors, vous mettez des enfants, Total l'a fait, tout le monde le fait. Plus c'est dégueulasse, alors vous mettez des gosses et vous mettez des brins d'herbe devant et votre produit, il est fabuleux.
Là, tu t'intéresses à la manière. Alors, on va effectivement...
Ça, c'est la honte de la,
et le
du
green
métier,
business,
quoi.
Moi, j'en peux plus, quoi.
Pour
moi,
ceux qui... Oui, on va en parler, Marie, on va en parler. Pour ceux qui... Voilà, la pub environnementale.
Non, je suis
on
désolé, va j'ai pour ceux qui prendraient avec un anglicisme, je dis green business.
The greenwashing too.
Pour ceux qui prendraient l'antenne maintenant, je rappelle quand même que nous avons essayé en première partie de dissocier les notions de publicité, de communication, de marketing, et pour vous les remettre dans l'ordre en une phrase, c'est très simple. Vous avez des gens qui ont une idée, un projet, qui veulent vendre un produit, une association, n'importe quoi. Et cette idée, il faut qu'ils fassent une étude pour voir si elle est viable. Ça, c'est la partie marketing. Mais au départ, il y a un besoin de communiquer vers l'extérieur, donc on utilise des outils pour faire des études. Et en bout de chaîne arrive la publicité, qui n'est qu'un outil au service d'une stratégie, un outil de communication. Il y a un aspect qui nous embête, évidemment, on vient de parler d'outils au service de stratégie, et Gilles, tu as très très bien introduit, je dirais, la question suivante, qui est, quand on commence à parler de communication ou de marketing dans la politique, est-ce qu'on peut rester sain? Est-ce que ça reste pas? Est-ce qu'on bascule pas de plein fer dans l'aspect, justement, manipulation de masse?
Ben complètement, c'est le problème, on est toujours dans une élection en France, mais enfin il va y avoir une élection présidentielle dans pas très 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 longtemps, et ils sont tous dans les starting blocks, et ça coûte des fortunes, et il y a énormément d'intermédiaires qui s'en mettent plein les fouilles pour pas grand chose.
Les conseillers, les consultants, alors là on est dans la com, hein, on n'est plus dans la pub, hein, on est dans la communication.
Mais c'est de la publicité électorale quand même quelque part, enfin c'est en amont, ça fait partie du marketing.
Alors comment dire, la publicité c'est le site internet pour faire simple, la pub c'est le site internet, mais la communication c'est
les affiches,
ce qui amènera,
c'est les slogans,
la communication c'est la stratégie.
Et alors, c'est exactement planifié de la même façon dont parlait Marie tout à l'heure, c'est qu'il y a des financiers, hein, et alors on s'aperçoit que c'est pas toujours évident et pas très clair, je vais vous en parler après. Et puis, il y a les créatifs. Il y a ceux qui font des tempêtes de cerveau, hein, les fameuses tempêtes de cerveau, dans un truc qui est arrivé en France de façon assez importante à partir des années 2000. Avant, on n'en entendait pas trop parler. Ce sont les think tanks.
Ah, les groupes de pensée, ouais.
Avec le TH entre... Alors, think, c'est la pensée, hein, la réfléchir, voilà, les idées. Et puis, tank, c'est le réservoir. C'est la boîte à idées, quoi. Et alors, ça vient bien entendu d'outre-Atlantique, cette histoire-là, où ça fait une fortune. C'est comme ça, on l'a vu au moment de l'élection d'Obama, où plus c'est important, plus ils sont bons, et plus on a de chance d'être
élu. Plus ils pèsent, d'ailleurs.
Oui.
Le premier truc de Sarkozy, quand il a été élu, c'est d'aller dans des think tanks américains pour rassurer les groupes
Absolument.
De pression.
Hein, donc, attention, ne nous moquons pas trop de ces machins qui viennent des États-Unis, parce que c'est ce qui sert de cerveau à l'heure actuelle aux partis politiques. C'est grave, quoi. Tu m'as fait passer un télérama dans lequel il y a toute une étude faite là-dessus. Ils ont bien gratté. Et ils se sont aperçus en enquêtant que, en fait, les politiques n'ont plus le temps de penser. D'accord ? Les partis politiques n'ont plus le temps de réfléchir, donc ils sous-traitent.
Pourquoi ? Parce qu'ils sont uniquement bloqués, il faut bien le préciser, ils sont tellement occupés, pour y avoir été en interne, tellement occupés sur la phase stratégique qu'ils n'ont plus le temps de s'occuper de la phase idée.
Ils sont sur le terrain. Ils sont représentation permanente. Ils sont dans des discours. Ils sont dans des repas.
Ce sont des marionnettes, il faut dire les choses concrètement.
Ils sont en train de faire de la publicité, en fait.
Voilà, mais le contenu, c'est plus eux qui définissent.
Le produit, c'est pas eux qui définissent le produit.
Alors, dans cette enquête, ils disent qu'ils arrivent parfois à faire remonter une bonne idée de la base. Vous imaginez, parfois...
Parfois.
Et vous savez comment ça se passe pour faire remonter une bonne idée de la base ? Elle est taxée sur toute l'échelle. Le prétentieux qui veut être élu à la région taxe l'idée du petit grouillot sur le bled. Le mec qui est au national taxe l'idée au mec de la région qui lui a dit « Eh Coco, j'ai une super idée pour le programme. » Et puis ça remonte comme ça à un mec qui s'approprie l'idée.
On entend beaucoup « Ah oui, mais tel parti n'a plus d'idée, ils n'ont pas de programme, etc. » Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont tous à serrer les fesses pour ne pas lâcher les bonnes idées trop tôt, pour pas qu'on leur pique, pour pas qu'on leur coupe l'herbe sur les pieds.
Bien sûr.
Donc c'est à savoir quand ils vont partir et quand ils vont lâcher vraiment les fameuses idées qui ont été réfléchies par ces groupes soi-disant de réflexion. Alors qui on retrouve dans ces groupes de réflexion ? On retrouve des économistes, on retrouve des banquiers, on retrouve des avocats, on retrouve des sociologues.
Mais c'est des lobbies finalement alors ?
Ce sont des lobbies. Ce sont des lobbies.
C'est des marketeurs, ceux-là.
C'est des marketeurs.
Tout à fait. On retrouve la même stratégie, quelque part, ou le même organigramme, sauf que là, c'est pour l'avenir du pays, quoi. C'est pour...
Attention, c'est pour l'avenir du pays ou pour faire élire ? Pour plaire au public, pour faire élire.
Voilà. Dans le populisme le plus crasse, puisqu'on va avoir des cibles. On va avoir, comme en publicité, exactement la même merde, si je peux dire. Ils vont vendre du yaourt, quoi. Et on en est arrivé à ça en France. Alors, de gauche comme de droite.
Comme en publicité, comme un produit de consommation, comme un yaourt.
Absolument.
Voilà, c'est plus...
De gauche comme de droite, on va retrouver trois grandes boîtes à idées d'un côté comme de l'autre. Hein. J'en ai marre du think tank.
Et avec des mecs qui se croisent dans les deux, d'ailleurs, type d'information.
Et on s'aperçoit, par exemple, ils ont noté à Télérama, parce que leur journaliste est bon, il a bien gratté, que, par exemple, dans toutes ces boîtes à idées, on ne retrouve quasiment rien sur le nucléaire. Pourquoi ?
Ah tiens.
C'est bizarre.
Étonnant.
De gauche comme de droite, encore une fois. Et on s'aperçoit que ces boîtes à idées coûtent cher. Hein. C'est quand même des millions d'euros. Hein. Et c'est petit en France. Hein. C'est des dizaines de millions d'euros ou des centaines de millions d'euros outre-Atlantique. Et chez nous, c'en est encore. Les gros sont à 3-4 millions de budget. Ils touchent de l'argent de l'État. Il faut savoir qu'ils touchent des subventions publiques pour faire ça.
Si.
Et ils ont des privés. Alors, ils ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier. D'ailleurs, ils disent, pour garantir notre indépendance, on essaye que les sponsors ne dépassent pas 2 ou 3%. Mais ils essayent d'en avoir plusieurs. Et pour revenir au nucléaire, on s'aperçoit qu'Areva finance, bien entendu, ces boîtes à idées. Et de gauche comme de droite.
Bien sûr, mais évidemment.
Donc, c'est pour ça qu'on ne retrouvera jamais des antinucléaires avec des arguments très forts du côté du PS comme du côté
du
MP.
Ce que tu es en train de dénoncer, ça vaut le coup de s'y arrêter, c'est la communication poussée à l'extrême est opposable à la démocratie. Ça, c'est une évidence absolue. C'est-à-dire que quand tout devient plus que stratégie, calcul, contrôle de l'opinion, et on va prendre un exemple concret pour appuyer ça, et qui est très évident, c'est qu'on a l'impression que les politiciens, quand ils nous parlent, ne sont pas francs, que machin. Mais ce qu'on voit pas, c'est que l'outil, c'est pas simplement l'émission d'un message par un homme politique. Tous ces fameux sondages, si maintenant qu'on vient de vous expliquer ce que l'on vient de vous expliquer, vous savez que les types qui conseillent les politiques sont les mêmes et très souvent sont les patrons des instituts de sondage, vous commencez à comprendre que le sondage n'est qu'un outil au service du marketing et pas de la pub, du marketing. On donne l'impression aux gens, en réalité, vous savez quoi, on vous donne aucune impression. Quand on vous fait un sondage, il y a deux objectifs, le sondage. Le premier, c'est de ramener de l'information descendante, c'est-à-dire dans un premier temps, pour le type, de savoir si une idée est potentiellement viable ou pas. On la teste, on fait un sondage, on a une opinion. Si l'idée est viable, le politique ressort avec l'idée. Si elle ne l'est pas, il revient avec l'idée atténuée, si elle ne l'est pas du tout, l'idée part aux oubliettes.
Il modifie son yaourt en fonction.
C'est devenu, le sondage, un outil d'anticipation avant lancement du produit sur le marché. Ça, c'est le premier aspect du sondage. Et le deuxième aspect, c'est que c'est un outil extraordinaire pour savoir ce que pensent les gens, donc pour savoir jusqu'où on peut aller dans certaines attitudes ou dans certaines paroles.
C'est ça, c'est devenu une étude de marché, en fait. Alors, le sondage.
Moi, je voudrais quand même donner un petit peu d'infos pour que les gens reconnaissent les noms et de savoir qui
bien
y a
sûr.
Derrière.
Balance.
On entend beaucoup parler de Terra Nova depuis quelques temps.
Situé à droite du Parti Socialiste.
Alors, c'est plutôt PS, c'est plutôt dans l'hémisphère gauche, mais avec des sponsors qui sont Areva, EADS, la Fondation Total,
etc.
Voilà, mais c'est quand même des gens...
Bon, des gens bien.
C'est des petits, hein, 300 000, 400 000 euros, ils ont un petit budget, mais dedans, bah, y a des gens proches de Michel Rocard, il y a des gens quand même plutôt étiquetés à gauche. À côté, il y en a une autre. Ça s'appelle Jean Jaurès. C'est étonnant, hein, c'est une bonne marque. Jean Jaurès, tout le monde se l'approprie, même Sarkozy.
Pauvre Jean Jaurès. Ouais,
pauvre Jean Jaurès, il s'est retourné 15 fois dans sa tombe. Eh bien là, c'est pareil, les financeurs privés sont Veolia, Suez, EDF, enfin voilà. Ça, c'est marrant de retrouver.
Bien sûr. Puisque après, avec qui va-t-on faire les bons accords? Les industriels vont faire les
bien
accords
entendu.
Avec qui? Avec les politiques.
Et ils ne sont pas fous, ils se disent autant miser à gauche qu'à droite. Souvent, ils misent plus à droite qu'à gauche, mais enfin, il donne un petit peu à gauche. Tu parlais de L'Oréal tout à l'heure, L'Oréal finance aussi un petit peu à gauche.
Mais bien évidemment, voilà. Bien évidemment.
Et alors, de l'autre côté, les cerveaux de l'hémisphère droit, les fameuses boîtes à idées de droite, l'Institut Montaigne, hein, c'est marrant, ça aussi, c'est un nom, c'est une bonne marque, Montaigne. Hein. Fondapol, alors là, c'est des potes à toi, Gilles.
Qui ça? Quoi donc?
Non, je te charrie. Mais il y a une émission que tu aimes beaucoup,
Qui est
C'est dans l'air.
Hein. J'aime bien cette émission, ouais.
Voilà. Et c'est pour ça que je me permets de te taquiner un petit peu là-dessus. Et il y a un monsieur que l'on retrouve souvent sur le plateau de C'est dans l'air. Et comme par hasard, eh ben, il bosse là-dedans.
Qui ça?
Alors,
Saucèze, non?
Non. Il faut que je retrouve, ça y est.
Parce que c'est toujours les mêmes communicants, le temps que je le cherche, on peut vous dire, les Thierry Saucèze, les... Mais tous ces gens-là, mais c'est hallucinant, je vous dis, ils sont les mecs, ils donnent les avis, ils viennent analyser leurs propres opinions, ils font après, ils sont responsables de la communication de machin, ils organisent le truc pour Sarkozy. Une agence de notation à eux tout seuls, c'est un
j'ai
truc
trouvé,
de fou.
C'est Dominique Régnier, un monsieur avec des lunettes très sérieux.
Peut-être, ouais.
Voilà, il est quasiment tout le temps sur le plateau.
C'est pas le prince Régnier, hein.
Non. Dominique Régnier. Mais ce Fondapol, qui est donc une boîte à idées, on retrouve le président Nicolas Bazire. Ça vous dit quelque
chose?
Ah bah
oui, un petit peu, oui.
Ce monsieur qui a des gros problèmes en ce moment, judiciaire.
Un proche
etc.
de Lou, présidente.
Voilà, un proche de Sarkozy, donc. Il est avec Charles Becbédé. Le frère de l'écrivain
Kokaïdoman.
Voilà. Et donc, ils sont tous cofinancés
lui-même
par des multinationales, Veolia, Suez, EDF.
Enfin, publicité et cocaïne, c'est pas un scoop non plus. Hein. Hein, enfin, les créatifs se défoncent beaucoup dans le marketing, ils ont un peu plus de mal. Mais
voilà.
N'importe quoi, hein, vraiment, ce qu'il faut pas entendre.
Tout ça pour dire qu'à droite, ils ont plus de sous qu'à gauche, hein, dans les boîtes à idées. Hein. C'est des millions quand même, et c'est toujours tourné dans le même sens, avec, nous dit le journaliste de Télérama, finalement assez peu d'idées.
Oui.
Il n'y a pas trouvé d'idées géniales.
C'est très sec en réalité.
C'est vraiment du prêt-à-porter. Il cite, c'est vraiment ça. Alors, c'est des fringues de prêt-à-porter qui sortent de ces millions d'euros, ce qui est quand même un peu...
Concept tard, important émis en début d'émission, mais rappelé, et surtout on a débattu, nous, lors de la préparation, il y a quelques heures en arrière. Attention, il y a forcément une notion totalement différente en fonction que la communication soit de masse ou qu'elle s'adresse à relativement peu de personnes à l'échelle d'une petite ville ou d'un village. C'est-à-dire tout ce que l'on est en train actuellement de critiquer et d'allumer, parce que c'est allumable et que c'est critiquable, c'est de la communication de masse, de la manipulation d'opinion. Et là, forcément, c'est réservé à une certaine catégorie de grandes entreprises, ainsi de suite. Tout ce qui est sorti de ces grandes entreprises, on va y arriver évidemment, et on va s'intéresser dans la deuxième partie, je dirais, du business et de l'outil au service de stratégie business, par exemple de la musique. Vous écoutez tous de la musique. Depuis quelques années, on voit des émissions de télé, Nouvelle Star. On va donner la chance au grand public. Ça, c'est du marketing au top. On donne l'impression au grand public. Voilà, le grand public va pouvoir demain matin devenir une star. Alors comment c'est fait? On prend 10 000 personnes et puis évidemment dans un espèce d'entonnoir, un goulet d'étranglement, on dégage les moins bons en les montrant bien évidemment un peu comme dans le maillon faible d'une façon totalement évidente pour faire rire le beauf qui chez lui se dit « Oh là là, moi je suis nul mais j'y serais jamais allé », on se rassure comme on peut. Et donc dans ces émissions-là, on monte des gens en sauce, on les teste en direct parce que ça n'est que ça. On regarde en fonction de l'audience et en fonction des coups de téléphone, parce que non seulement les coups de téléphone à 0,50 c'est vachement bien, ça rapporte des thunes,
sondage en direct
mais c'est du sondage et c'est du sondage qui rapporte des thunes, là c'est le seul moment du marketing. Et au bout d'un moment, celui qui paie plus, on peut le mettre sur le marché, parce que c'est quand même une belle démonstration de l'efficacité redoutable, de la manipulation redoutable du marketing quand il est poussé à l'extrême. C'est bien ça, on va vous sortir un mec en vous disant celui-là vous l'avez élu, vous l'aimez, vous l'achetez, sans se prendre 90% de chance que ça fonctionne. Et ces mecs-là, vous savez d'où ils sortent en réalité, tous ces artistes qui arrivent au bout de chaîne? Ce sont ce qu'on appelle des culs de catalogue. C'est-à-dire que les maisons de disques ont des gens sur 2-3 couches, les très bons sur lesquels on met de l'argent, les moins bons sur lesquels on parie sur l'avenir, les un peu moins bons en se disant celui-là, dans 10 ans, Coco, il fera quelque chose. Et puis les culs, les fonds de chiottes, c'est-à-dire le fonds de chiottes, c'est le mec, on se dit tiens, on va le tester dans un radio crochet, sait-on jamais, il vaut rien, mais s'il pouvait nous rapporter un peu de rond, ce serait bien. Et dans la sélection, vous avez une dizaine, une quinzaine de mecs comme ça qui sont inclus, qui en réalité manquent pas de talent, parce que dans le tas, il y a des types, faut quand même leur reconnaître ça, les Julien Doré et compagnie, qui ont des vrais talents, des vraies compétences, mais qui sont sortis comme ça de culs de catalogue des maisons et qu'on vous vend comme un produit pré-mâché. Voilà le summum du marketing.
Mais alors, l'embêtant là-dedans, c'est que
musical.
Le yaourt qui doit plaire à la masse, il est forcément insipide. Puisque pour le plus grand nombre, un yaourt,
masse,
voilà, c'est ça le problème du produit
formaté
de masse.
C'est large.
Comme tous les goûts sont dans la nature, et c'est pour ça qu'on est dans une époque où tous nos produits, que ce soit la musique, les émissions de télé, évidemment, je parle même pas de ce qu'on mange,
mais c'est valable pour les bouquins aussi.
C'est fait pour le plus grand nombre. On a tous des goûts très différents, quoi.
Bon, on vient bien donc de démontrer quasiment pendant une heure là qu'il y avait, effectivement, des aspects positifs, négatifs.
Nos politiques aussi sont complètement insipides, hein. C'est la même chose.
Ils sont dans la communication de masse.
Tu parlais le prêt-à-porter, c'est ça. Des idées insipides, comme ça on va plaire, on va pas risquer de choquer certaines personnes. Quoi.
Donc, tout le monde a bien compris, la communication de masse, forcément, est totalement con par définition, puisqu'elle est de masse. Con,
parce que, évidemment, le consommateur, globalement, est con. Il faut que tout le monde comprennent.
Je voudrais qu'en quelques minutes...
On est toujours le compte de quelqu'un.
Voilà. En quelques minutes...
C'est pas ce que je dis, c'est ce que, ce que dirait l'Institut de sondage.
On va s'intéresser en 2-3 minutes quand même, et c'est important évidemment. Alors il y a une opposition, on est sur particulièrement en Aveyron, pas particulièrement sur Radio Sainte-Afrique concernée, et quelque part, moi je peux comprendre, il y a un mouvement anti-pub. Anti-pub assez fort.
Les casseurs de pub.
On peut comprendre que quand un type habite dans une ville, que pour aller à son travail, il va être agressé par 2500 panneaux publicitaires sur 3 km, ça lui fasse péter les câbles. Je trouve ça hallucinant, moi.
Insupportable.
Là, c'est, encore une fois, on est dans la consommation de masse. Qui c'est qui diffuse sur ces panneaux-là? C'est pas le petit artisan local, hein. C'est des grosses marques, ainsi de suite.
C'est cher.
Bon. Ils ont des fois des méthodes, c'est pas le but de cette émission, qu'à titre personnel, je dénonce, parce que quand on commence à taguer les panneaux du petit entrepreneur local, c'est qu'on n'a rien compris, justement. Et c'est peut-être un petit peu la vocation de cette émission, c'est de rétablir certaines choses. C'est-à-dire que le le type qui fait bien son saucisson dans le coin et qui a envie de le vendre, il a le droit d'être aidé pour vendre son produit. Je suis désolé. Je veux dire, sinon le mec a une ferme au fin fond du Lévézou, il vend ses trois saucissons sur le marché et avec ça, il bouffera pas. C'est peut-être très dur comme réalité, mais c'est une réalité. Par contre, ça m'intéresse, moi, de poser la question, Gilles, toi, qui as cette longue expérience de radio, et particulièrement Radio Sainte-Afrique, qui est une radio sans
Gilles,
publicité.
Gilles, qui fait aujourd'hui
j'ai pas dit qu'il avait une grosse bite.
Hein.
J'ai pas dit qu'il avait une grosse bite. non, parce que je le vois faire des gestes derrière la vitre, j'explique quand même à nos auditrices.
Tu es le seul à avoir pensé à ça.
Voilà. Non, pas du tout.
Elles sont nombreuses à connaître la réalité.
Prétentieux. Excusez-nous pour les saturations. Donc, Gilles, comment on fait pour vivre sans pub? Et très honnêtement, est-ce qu'une petite association comme Radio Sainte-Af, qui est un peu à la limite d'une boîte qui a des nécessités quand même de se faire connaître, est-ce qu'on peut fonctionner sans publicité? Nous avons 3 minutes pour parler de ça.
Bah, si on n'est pas très non plus, comment dirais-je, mégalo, je pense que de l'histoire de la radio, partie d'une caravane arrivée place de l'Hôtel de Ville, c'est sûr que si on avait voulu devenir énergie, ça n'aurait pas marché. Il y a ça, il y a le fait qu'on a tenu dans le temps, il y a le fait qu'on a diversifié les ressources. C'est la seule solution quand on ne fait pas de pub. On en a fait un tout petit peu une fois, quand ça nous a été autorisé, parce que, je ne vais pas vous faire un historique, mais en 89, il y a eu, à un moment donné, on a dit, les radios associatives n'arrivent pas à vivre, il faut leur laisser faire un petit peu de pub. Donc on nous a laissé faire un petit peu de pub. On en a fait pendant une saison, au moment des fêtes, et ça a bien marché. D'ailleurs, on a été étonnés de voir des commerçants qui n'étaient pas forcément dans nos idées, nous faire confiance, et ça, c'est... Il y a ce côté-là aussi, pour un média, de dire, tiens, on nous fait confiance, on nous donne des sous pour faire de la promotion.
Oui, mais à l'inverse, Radio Sainte-Af fait nul pour sa propre publicité.
Ah oui.
Vous êtes passé d'un extrême dans l'autre, finalement, quelque part.
Mais on a vite arrêté. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas le marché dans le coin. Je veux dire, si on voulait vivre de la publicité...
Ah oui, tu parles de l'aspect commercial, toi. Ouais.
L'aspect purement commercial, il faudrait payer quelqu'un pour aller démarcher et ce qu'il ramènerait à la radio suffirait tout juste à le payer, quoi. Donc, c'est de toute façon invivable à ce niveau-là. Donc, il fallait trouver d'autres méthodes. Et puis, par ailleurs, au niveau éthique, c'est vrai qu'on n'est pas très pub et on avait envie de garder notre indépendance, ne pouvoir taper sur telle banque parce que c'est des
charlots. Ouais, des gougnafiers, quoi.
Est-ce qu'on peut citer des noms?
Alors moi, je rebondis sur ce que tu es en train de dire.
Trois, au moins.
Je rebondis sur ce que tu es en train de dire. Dans ce cas-là, je vais formuler ma question autrement. Est-ce qu'une radio comme Radio Sainte-Afrique qui ne fait pas de pub peut se passer de communication?
Ah non, ça c'est, il faut communiquer, bien entendu. Nous, ça a marché dans le temps. Je veux dire, on a eu les auditeurs à l'usure quelque part parce qu'au bout de 30 ans, personne ignore et on s'est imposé par d'autres trucs, par la fête de la musique, par des choses comme ça, où les gens se sont dit, tiens, finalement, c'est peut-être pas des charlots.
L'usure, j'aime bien. Le...
Ouais, mais enfin, sur la fête de la musique, il y a marqué organisé par Radio Sainte-Afrique. Donc, il y a un moment où tu es obligé de communiquer quand même.
Absolument. Chers auditeurs, donc vous êtes fatigués, vous n'en pouvez plus et vous, au bout de 30 ans, vous écoutez Radio Sainte-Afrique tellement, c'était plus possible. Alors, ne désespérez pas.
C'est vrai que c'est à l'opposé de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. On n'a pas du tout eu de stratégie. On s'est dit, enfin moi personnellement, en tout cas, je ne suis pas tout seul dans cette histoire-là. Hein. Il y a toujours eu des équipes. Mais je m'étais toujours dit, c'est quand les gens seront fiers de travailler à la radio et quand on sera bon, quand on sera reconnu, et ben ça se fera tout seul. Le bouche à oreille se fera tout seul. Et c'est ce qui s'est un peu passé.
C'est ce qu'on appelle dans notre métier, c'est ce qu'on appelle la communication de réseau. C'est d'une fille, surtout en milieu rural, extrêmement efficace. C'est quoi le réseau? Ça veut dire simplement quand on a un message à faire passer, on sort boire un coup avec les copains. Il n'y a rien de plus simple.
Voilà, il y a les bistrots, il y a des petits flyers, il y a des affiches, il y a des conneries, il y a eu des petites campagnes, il y a eu des choses.
On retombe dans une idée d'échelle encore.
Mais qui sont toujours. C'est-à-dire que si on avait voulu faire de vraies campagnes de communication, ça coûte et peut-être qu'on préférait mettre l'argent ailleurs et que finalement aussi on a cette grande chance, c'est que la radio n'a pas besoin de faire du taux d'écoute. C'est que quand tu fais de la pub, ton annonceur, il te demande ton taux d'écoute
et il
va pas donner du fric à une radio qui est pas écoutée, c'est clair.
On tombe dans le piège. Dès qu'on commence à dire à un type, viens chez moi, je vais te faire de la promo, t'es mort déjà.
Et nous, on a fait le truc totalement inverse en se disant, on fait de la passion, on se régale, on essaye d'être bon, on essaye de faire des choses qui plaisent pas forcément au plus grand nombre, mais qui sont originales, et quelque part, ça a fonctionné, puisqu'on est là 30 ans après.
Avec la nécessité quand même de prendre en compte, par exemple, dans ce qu'on appelle, excusez-nous encore un mot anglais, le teasing, c'est-à-dire une technique qui consiste à l'intérieur d'émissions à faire la promotion pour les émissions qui suivent, ça n'est que de la communication, et peut-être que là, il serait temps un jour, et à mon avis, ce sera une preuve que, justement, la société est arrivée un petit peu à maturité, c'est-à-dire que le jour où il n'y a pas cette espèce de rejet dans un espèce de package fourre-tout, où tout le monde mélange publicité, album marketing en disant c'est sale, c'est caca. Et on voit, moi j'ai vu des gens, et j'ai vu des gens extrêmement sains avec qui on a des très bonnes relations aujourd'hui, à l'époque nous insulter parce que nous étions entre guillemets des pubeux, et qui ont compris aujourd'hui, parce qu'ils ont lancé leur propre business, qu'ils avaient besoin de communiquer pour vendre leur truc, et que c'était les premiers à venir des fois dire bah, comment je peux faire pour mieux me vendre.
C'est évident, essayez de trouver des gens qui vous correspondent pour faire ce boulot-là, de ne pas tomber sur des escrocs.
Tout simplement. Alors, dernier petit aspect, il y a quand même une conclusion moi, qui me tient à cœur, il nous reste une petite minute. Il faut bien comprendre quand même quelque chose, la communication, la grosse différence fondamentale avec la pub, elle se résume en deux mots. Quand vous vous levez le matin, la première personne que vous croisez à qui vous dites bonjour, vous ne le savez pas, vous êtes déjà dans la com. C'est-à-dire que si vous n'écoutez pas quand tu dis comment tu vas à quelqu'un, comme on fait tous en partant sur le trottoir, on est déjà à 20 mètres avant que la personne ait répondu, effectivement là il n'y a pas de communication. Et puis rappelons quand même qu'on est dans une période où il n'y a jamais eu autant de pubs, de réclames, de marketing, de com, et on est dans une période où on n'a finalement jamais aussi peu communiqué. N'est-ce pas Gilles?
Ah ben ça sera le mot de la fin.
D'accord, il est en train de nous faire signe, on coupe, alors on coupe tout, tout ce qui dépasse. Voilà. Bisous tout le monde.
Au revoir.
À jeudi prochain. Bye.
Les tontons.
J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
Oh merde.
Les tontons.
La France est un des rares pays au monde à n'avoir jamais cédé à la tentation totalitaire.
Flingue.
L'ironie du primate. Humour Louis-Philippard, le sarcasme prudhomesque. Mais vos opinions sur la musique moderne et sur l'art en général, je vous conseille de ne les utiliser qu'en suppositoire. Voilà, et encore pour enfants.
Oh, ça va atomiser. C'est l'émission des tontons flingueurs.